Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la collégiale de la FEN, la 64e collégiale. Nous avons la chance aujourd'hui d'aborder une question qui intéresse tout le monde. Comment se documenter, comment faire de la veille, comment faire de la curation. Et on a la chance d'avoir un outil assez extraordinaire qui est Todd Cursus, un média. On va voir si c'est qu'un média, avec Denis Lamontagne qui en est son directeur et fondateur. Donc ça va nous permettre, c'est un média que j'ai découvert au début du siècle et qui est né au siècle dernier, donc c'est dire si effectivement il a une légitimité, et en tout cas ça va nous permettre de démarrer avec Manal. Manal, une première question à Denis.
Donc merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui et répondre
plaisir.
À nos questions. Et donc pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Todd Cursus pour nous la faire découvrir?
Bien, alors, Todd Cursus, c'est une aventure qui est née suite à une formation. J'étais au Centre de recherche informatique de Montréal et je m'intéressais à cette époque-là au système expert parce que je travaillais avec l'Institut de formation autochtone du Québec qui s'occupe des Indiens et des Inuits qui est un peu partout dans la province. Et on avait établi, grosso modo, que les besoins dans une communauté éloignée, ça correspondait pas mal à un système expert. C'est ça, on en avait besoin. Alors, j'étais là. Et on était en 95, et je vois quelqu'un, lors d'une pause, je m'en vais dans les bureaux, puis je vois quelqu'un qui navigue sur Internet, que j'avais jamais vu encore. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais vu. Et il y avait un furteur mosaïque à l'époque, puis à l'époque, il n'y avait pas d'image, il n'y avait que du texte. Et là, on lisait quelque chose, on cliquait sur un lien, il y avait d'autres textes qui apparaissaient, on cliquait sur un lien, il y avait d'autres textes qui apparaissaient. Et là, moi, j'ai eu ma révélation, j'ai vu la connaissance. Parce que moi, j'ai toujours défini la connaissance comme étant des liens entre des concepts. C'est ça, la connaissance. Grosso modo, on peut pas réduire la connaissance à moins que ça. C'est des liens entre des concepts. Alors, tout ce que je voyais, moi, c'était des liens. Du texte, des liens, du texte. Alors, je dis la connaissance. Alors, je ne suis même pas retourné à la formation sur les systèmes experts. J'avais vu quelque chose là. Et l'année d'après, j'ai parti une base de données dans Internet sur la formation à distance, tous les cours à distance qu'il y avait à l'époque. C'était tous des catalogues. On avait transcrit les catalogues dans Internet. Et puis, bon, maintenant, tu pouvais trouver les cours comme ça. Mais ça n'a pas été très long. Ça a pris, je pense, quelque chose comme 2 mois. Que là, j'ai compris qu'une base de données, c'est terriblement ennuyant. Donc, pour garder un peu les gens qui venaient, il fallait animer la chose. C'est là qu'est partie l'idée du service de nouvelles sur la formation à distance, qui par la suite, parce que maintenant, il se fait plus de formation à distance dans les écoles normales que dans les institutions à distance, on a passé à l'apprentissage numérique. C'est ça le concept en général. Tout ce qu'on peut apprendre par Internet, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on a démarré le service de nouvelles qui était en complément avec la base de données. Et graduellement, comme la base de données s'ouvrait de plus en plus, arrivaient des moteurs de recherche de plus en plus performants, la base de données perdait un peu de son importance. Alors, c'est devenu graduellement le côté promotion de la formation, alors que le côté nouvelle était plus le côté, je dirais, culture ou développement de la formation. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Et à l'époque, j'étais avec l'Institut de formation autochtone, parce qu'évidemment, on visait toujours les Indiens, mais les Indiens dans les régions éloignées, ils n'étaient pas branchés en 95, ni en 96, ni en 2000. Ce qui fait que, bon, tranquillement, pas vite, on s'est séparés, et puis Todd Cursus est devenu indépendant. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment ça se fait qu'on a un point édu. Si vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, maintenant, on ne peut plus avoir de point édu à moins d'avoir une institution aux États-Unis. Mais au départ, les règles n'étaient pas comme ça, ce qui fait que moi, je profite d'une cause grand-père et puis j'ai toujours mon point édu, même si je ne suis pas une institution établie aux États-Unis. Alors, c'est ce qui explique la chose.
Et de suite, il y a eu une adhésion de tout le monde au projet ou ça a été assez lent?
Oh mon Dieu! Au départ, il y avait une curiosité, mais la plupart des institutions éducatives voyaient, et certaines encore voient encore, comme Internet comme étant une mode passagère. Alors que pour moi, c'était évident que ça ne serait pas une mode passagère. On me disait, oh, ça va faire comme l'audiovisuel. Vous savez, ben, toi, tu n'as peut-être pas connu ça, Manala, mais l'audiovisuel, c'était des films avec des cassettes, des choses comme ça. Et puis ça a fait un temps, et puis après ça, c'est disparu. Alors, les gens disaient qu'Internet, ça va faire la même chose, mais non, ça n'a pas fait la même chose. Alors, et quelques mois après qu'on soit parti, il y a plusieurs institutions qui ont même écrit au ministre pour nous faire fermer. Parce qu'ils considéraient qu'on allait diluer le marché de la formation à distance. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on n'allait pas le diluer, c'est qu'on allait l'ouvrir à encore plus de monde, alors que les autres ils étaient limités aux quelques rares personnes qui sont suffisamment autonomes pour étudier toutes seules. Alors qu'avec Internet, à peu près n'importe qui peut trouver chaussure à son pied. Ce qui fait que ça a été passable, au départ, ça a été passablement difficile. Disons, j'ai mangé mes. On a une expression au Québec qui dit manger ses bas. Alors, ça veut dire qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et jusqu'en 2000. Et en 2000, là, il a commencé à avoir un changement. Les institutions ont commencé à embarquer. Et pas juste les institutions de formation à distance. C'est ça qui nous a sauvés, en fait. C'est que l'Internet est rentré dans toutes les écoles, est rentré partout. Et il y avait un besoin d'information de plus en plus fort. Et puis, ben, par la suite, comme il y avait de plus en plus de nouvelles, ça devenait de plus en plus facile de faire des nouvelles. On avait de plus en plus de matériel. Et puis, à un moment donné, ben, on ne court plus après le matériel. Le matériel vient à nous. On a juste à sélectionner maintenant.
Et aujourd'hui, en termes de métriques, il y a combien de personnes qui adhèrent à Tot Cursus?
On a autour de 32 000 abonnés actuellement et on reçoit autour de 30 et 40 000 visiteurs par semaine, dépendant de la saison, dépendant du thème qu'on aborde.
Comme on l'entend, ils sont dans tout le monde francophone?
Essentiellement dans le monde francophone, oui, c'est ça.
Vas-y Stéphane, vas-y.
Non, je t'en prie.
Si on continuait un peu sur le concept de Tot Cursus, vous nous avez parlé tout à l'heure du côté promotion qui a fait la différenciation par rapport à par exemple, une base de données classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Comment je vous dirais ça? Il y a toute une écologie dans Internet, n'est-ce pas? Autrefois, les institutions, avant que les moteurs de recherche soient aussi performants, les institutions avaient besoin de visibilité. Alors, ils s'indexaient chez nous, et comme nous autres, on avait énormément de crédibilité, ben, être indexé chez nous, ça les propulsait très rapidement. Mais, je dirais, autour de 2004-2005, les moteurs de recherche ont commencé à pénaliser les doubles apparitions. Si vous aviez la même description à deux endroits différents, ça diluait votre crédibilité. Alors, ils ont commencé à nous pénaliser, tous nos clients, en fait, qui avaient une double inscription. Il y avait leur base de données chez eux et celle chez nous, ce qui fait qu'ils se sont à peu près tous retirés. Alors, on ne pouvait plus vraiment avoir une base de données intéressante puisqu'on handicapait nos clients. Moi, j'appelle ça abus de position dominante de la part de Google, mais enfin. Toujours est-il que par la suite, on arrive à... Vous êtes un petit producteur de formation. Vous sortez une, deux formations. Vous apparaissez à la 2000e page dans Google. Vous avez besoin de promotion. À ce moment-là, vous venez chez nous, puis là, vous partez avec 30 000 vues en partant. Vous dire, ben, en fait, je disais 30 000 personnes qui vont vous voir, il y en a peut-être 500 ou 1000 qui vont aller voir votre site, mais c'est mieux que rien et ça serait beaucoup plus long et difficile d'avoir cet équivalent-là dans Google, par exemple.
Si on peut résumer, ce que vend réellement Tot Cursus aux formateurs, c'est la visibilité.
Aux gens qui veulent la promotion, c'est la visibilité. De l'autre côté, il y a tous les gens qui, comme vous, s'intéressaient à la formation. Et là,
c'est un intermédiaire.
C'est ça, et de ce côté-là, nous, on fait des... comment je dirais ça? On fait de l'exploration, plus que d'autres choses. On voit souvent des produits qui n'ont aucun rapport avec l'éducation, puis on se dit, mais comment ça pourrait nous servir, ça? Et souvent, par exemple, c'est nous, en francophonie, mais je pense quasiment au monde, c'est nous qui avons parlé les premiers des MOOC. En 94, je pense, C'est un Canadien dans l'université donc, il faut juste de folie, là, mais elle a un nom indien, cette université, en ce qui, enfin, qui a parti sur le premier MOOC. Et on en a parlé dès que c'est démarré parce qu'on trouvait que le concept était super intéressant. On a parlé, par exemple, je pense que parmi les premiers qui avaient parlé des interfaces sans contact, quel potentiel ça pouvait avoir en éducation. On a parlé par exemple, toute la réalité augmentée. Tout le monde en parlait, mais comment ça va se traduire en éducation? À un moment donné, on a trouvé une entreprise qui a fait un truc pour des usines là, qui était mais époustouflant. Puis on s'est dit, oups, ça, là, on commence à parler d'un truc pertinent, pas une usine à gaz, là, veut dire quelque chose qui peut être utilisable dans certains contextes. De façon extrêmement efficace. Alors, c'est ça qu'on couvre un peu en éducation. Si je prends juste une édition comme cette semaine, je viens de la finir, là, on parle de la classe de rêve. La classe de rêve aujourd'hui, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la classe de rêve d'un professeur d'il y a 30 ou 40 ans. Je vais vous donner un exemple. Dans une classe, assez souvent maintenant, on a ce qu'on appelle des TDAH, des gens qui ont un déficit d'attention. Alors, dans une classe de rêve qui a 5-10 élèves qui ont des déficits d'attention, tu te dis, comment est-ce que je peux, avec les gens qui sont là, réussir à créer quelque chose de passionnant, même pour eux et avec eux? Alors, on parle d'inclusion, on parle de toutes sortes de choses, mais les contextes changent et puis, ben là, on va regarder toutes les formules qui se font dans les écoles, toutes sortes de choses dans les écoles et ailleurs là, qui se produisent. Comme la semaine passée, j'étais à un colloque où quelqu'un a fait l'analogie avec les églises et les écoles. Les églises se sont vidées à peu près en 20 ans. Pourquoi elles ont 20 ans? Elles sont transformées en condos, en centres culturels, en toutes sortes de choses, mais plus tellement en églises. Et on s'est dit... qu'est-ce qui s'est passé pour que les églises perdent aussi rapidement toute pertinence? On s'est dit, est-ce qu'il peut se passer la même chose pour les écoles? Bonne question. On va regarder. Et puis, on s'aperçoit que les églises, autrefois, s'occupaient de la santé, s'occupaient des écoles, s'occupaient des loisirs, s'occupaient des services sociaux. Et graduellement, à cause que le niveau de professionnalisation a augmenté dans chacun de ces domaines-là, ben, ils se sont retirés. Puis à un moment donné, ben, il ne restait plus qu'aller prier le dimanche. Puis, je veux dire, ça ne correspondait plus tout à fait au rythme. Aujourd'hui, on demande à des enfants qui jouent avec en fait, pour qui les technologies sont intégrées dans leur vie, là, ils rentrent à l'école, puis ils n'ont plus le droit de se servir de leur téléphone. Ce n'est pas intégré. Puis de plus, les horaires, même pour un professeur qui s'en servirait bien ou qui voudrait bien les exploiter, l'organisation de l'institution est faite de telle façon que la plupart des possibilités les plus intéressantes sont pratiquement impossibles à réaliser avec efficacité. Je vais vous donner un exemple. Quand vous changez de classe à toutes les 45 minutes, c'est très difficile d'allumer un groupe et de le garder allumé toute la journée. Alors que avec d'autres organisations, avec d'autres formes de regroupement, autres que par l'âge, il est possible de faire des choses passionnantes. Et c'est ce qui se produit à l'extérieur. Je pense entre autres à Paris, vous avez une école pour l'apprentissage de l'informatique qui est franchement révolutionnaire, là.
L'école 42.
L'école 42, exact.
Oui.
Et puis je pense qu'il y a quelques autres initiatives qui apparaissent, que ce soit les Fab Labs, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent alentour, tous en dehors de l'école. Ou presque tous en dehors de l'école. Puis là, on se dit, hop, il y a une espèce de glissement. Et la semaine passée, je parlais avec une des responsables d'un programme de formation universitaire des professeurs, puis elle me dit, tous ces meilleurs finissants, tous ceux qu'elle voyait, là, il y en avait une douzaine qu'elle voyait les meilleurs, il n'y en a aucun qui s'en va dans les écoles. Aucun. Puis elle dit, oups, là, j'ai quelque chose qui se passe. Je dis, pourquoi ces gens-là ne voient pas leur avenir dans cette place-là, ou du moins leur avenir leur apparaît plus intéressant ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ben, c'est un peu les questions qu'on peut se poser par rapport à l'école. Il y a un mouvement qui se produit, qui est très souterrain, c'est tranquillement pas vite une désagrégation des responsabilités de l'école, qu'elle refuse Je dirais pas d'accepter, mais elle refuse de se transformer. Et je le comprends. Veux dire, c'est des, j'appelle ça des algorithmes éducatifs. C'est des procédures qui ont été établies sur des siècles et on demande de changer ça en quelques années. Alors qu'il y a des syndicats, qu'il y a toutes sortes de choses qui vont, qui sont établies sur ça. Et ben alors, ça demande un gros effort. Puis il y a des gens pour qui c'est la sécurité qui vont perdre. Il y en a pour d'autres pour qui c'est la facilité. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un certain nombre de choses, à changer.
C'est tout
Oui.
l'intérêt des écosystèmes, c'est-à-dire d'être capable à la fois d'avoir un lieu de diffusion qui peut être l'école. L'école 42, c'est des gens qui sont des makers. À côté de ça, il y a Station F, il y a des systèmes d'investissement avec des business angels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un écosystème agile qui permet d'apprendre chacun à sa façon en fonction de ce qu'il veut faire. Et ce qui manque dans l'école, c'est aujourd'hui de se réinventer, ce qui permet à de nouvelles institutions. L'école 42 est très, tout à fait intéressante, très significative parce que Xavier Niel disait, moi, je vous donne pas de diplôme, je vous donne un emploi. Et donc, ça réinterroge tout le parcours social. Et en France, où la terre de diplôme, hein, c'est très important, dans ces cas-là, ça réinterroge tout le modèle. Et quand on voit dans les bac plus 5, ceux qui sortent, plus de 50% sortent et ne travaillent pas dans le domaine qu'ils ont acquis pendant 5 ans. C'est énorme, ça veut dire, ça réinterroge.
Mais en même temps, la pertinence du diplôme, moi, je ne la nie pas parce que quelque part, c'est bien beau d'avoir un travail, mais c'est aussi intéressant d'évoluer, c'est aussi intéressant de s'appuyer sur je dirais, un secteur de recherche qui est en développement. Et il y a tout l'apprentissage, tout ça. De là à dire que le diplôme, même si on suit le même cours que le diplôme que vous allez obtenir, puis le diplôme que je vais obtenir est équivalent, c'est pas le cas parce qu'on s'intéresse pas aux mêmes choses ni de la même façon. Donc il y a des limites au diplôme, à la considération. Cependant, l'encadrement qui est autour de ça, pour moi, a une certaine valeur ou une valeur certaine. Mais je pense
C'est la redéfinition des diplômes qu'on assiste aujourd'hui.
Oui.
On se reco et d'ici quelques une dizaine d'années, on aura de nouvelles formes de diplômes, une nouvelle institution sociale autour des diplômes. Sur toi de cursus, j'avais peut-être une question. Il y a une partie freemium importante.
Oui, à peu près 60%.
Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut suivre les articles, dans ces cas-là, il y a 60% des gens qui suivent ça gratuitement.
Non, il y a 60% des articles qui sont accessibles gratuitement.
D'accord, très bien. Et combien de gens qui payent qui sont en freemium?
C'est en freemium, je dirais c'est 95%.
D'accord. Et donc très bien, c'est un beau modèle.
Mais les institutions, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent j'écris pour les institutions. Tu sais, si j'écris pour, si je mets un article en gratuit, il va avoir, je sais pas moi, entre 1 000 et 5 000 lectures en 2 semaines. Si je le mets en payant, il va en avoir, mettons, dans les meilleurs cas, 1 000, 1 500. Cependant, c'est souvent pour la clientèle payante que je vais écrire les meilleurs articles ou que je vais, quand j'ai un rédacteur qui fait un excellent article, je vais le mettre en payant parce que faut quand même que je prenne soin un peu de
Bien
cette
sûr.
clientèle-là. Et de toute façon, il finit toujours par être gratuit, là, quelque part. Mais c'est difficile à calculer combien j'en ai pour la bonne raison que j'ai plusieurs campus qui prennent les abonnements ouverts.
D'accord.
Ce qui fait que si vous faites partie du campus, vous avez accès. Ce qui fait que je ne sais pas combien exactement, là, mais c'est ça. C'est à peu près 5% de nos abonnés officiels qui sont payants.
D'accord. Et il y a plus d'engagement quand ils sont payants? C'est-à-dire les gens donnent plus de commentaires ou c'est similaire?
Pour les commentaires, on a essayé
Ouais, c'est
quatre ou
toujours
cinq solutions, et
ouais.
puis la charge d'entretien, surtout pour notre clientèle publique, est tellement lourde qu'on a cessé tout ça. Je vais vous donner un exemple, là. Quand il y avait des commentaires, facile, 80% des commentaires, c'était du style « Je veux une bourse, je veux étudier dans un certain domaine, pouvez-vous m'aider à faire mes devoirs? » Grosso modo, là, ça, c'était 80% des commentaires. Ce qui fait qu'à un moment donné, on dit, ben, c'est pas ça, le commenter un article, c'est pas ça. T'sais. Puis il y avait, je dirais, un 5% d'autopromotion, des gens qui disent, c'est très bien ce que vous faites, voici ce que je fais. T'sais. Et bon, c'est ça. Ce qui fait qu'on a coupé les commentaires. Mais là, il y a des nouveaux outils qui s'en viennent, et puis on regarde ça encore. Alors, c'est pas dit qu'on viendra pas avec des commentaires. Mais Manala, moi, j'avais une question. Le
Oui.
doctorat, aujourd'hui, tu vas sortir avec un doctorat bientôt, là. Je veux dire, ça a une valeur, mais est-ce que cette valeur-là est reconnue dans le public, si tu veux, en dehors de l'université?
Ben, ça dépend où on y va. Déjà, par exemple, selon mon expérience personnelle, moi, j'ai fait une thèse qui n'est pas financée. Donc, je n'avais pas une entreprise avec une problématique claire. Au contraire, c'est moi qui allais chercher les entreprises, qui a cherché les professionnels, chercher une problématique et essayer de travailler là-dessus. Et déjà, quand vous dites faire la promotion de ce que j'ai envie de faire, déjà, moi, je commençais à découvrir un peu le doctorat. Et pour expliquer aux gens le système de doctoral et qu'est-ce que ça peut leur apporter, les gens ne savent, la plupart des gens que j'ai rencontrés ne savent pas ce que c'est un docteur en gestion, en management, et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Ils savent ce que c'est qu'un stagiaire, ils savent ce que c'est qu'un alternant, mais la recherche en gestion et sa valorisation potentielle, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, que ce soit du côté des universitaires pour peut-être mettre un peu plus de tirer un peu plus de terrain et aussi en contrepartie informer les professionnels du potentiel qu'ils peuvent avoir en collaborant avec un chercheur ou un étudiant, par exemple.
Ouais.
Et ça, il y a tout un écosystème qu'on peut développer. Il y a énormément de potentiel, mais il y a beaucoup de travail aussi.
L'histoire des universités, c'est détourner du monde de l'entreprise, se méfiant de l'entreprise avec le fameux mai 68 où justement il fallait tout réinventer et donc ils se sont enfermés sur des modèles qui ont fait leur histoire. C'est d'ailleurs pour ça, beaucoup plus tôt, qu'on a créé des écoles qui étaient plus opérationnelles et donc il manquait toujours un chaînon. Et c'est assez dommage dans l'écosystème universitaire qu'il n'y ait pas une plus grande connexion. Sur des maîtres de conférences qui créent des entreprises, etc. Il y a des possibilités, mais c'est pas complètement dans la culture. Et puis dans certaines universités, c'est très très éloigné de leur culture, voire même c'est un militantisme contre la marchandisation de l'éducation.
Et pourtant,
ça se défend, mais oui, excuse.
Et pourtant, je vois que moi qui travaille à l'université, je vois qu'il y a des gens qui tentent, en créant des formations, développement de formations, de faire le lien avec les entreprises. Mais c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Il y a beaucoup de freins. Il n'y a pas quelque chose de fluide, de bien huilé, que tout le monde peut suivre. C'est chacun essaye de faire l'effort, de monter quelque chose. Et je sais comment c'est peut être fastidieux de monter une formation. Ça dure déjà plus d'une année en général. Donc voilà, c'est à chaque fois. En fait, aujourd'hui, l'impression que j'ai eu, c'est que chacun essaye de faire autant que possible de son côté, mais il n'y a pas quelque chose qui permet.
Mais on peut comprendre l'université de se méfier de l'entreprise. Je veux dire, combien de fois la liberté académique a été, je dirais, corrompue littéralement. Moi, je pense juste au Québec récemment, il y a un chercheur qui s'est insurgé de la présence des entreprises de pesticides dans la recherche agricole. Et puis, c'est devenu un vrai scandale. Et effectivement, l'industrie était très, très présente et influençait radicalement la recherche en agriculture. Et on trouve la même chose en médecine. On trouve la même chose dans différents domaines, ce qui fait que, oui, on a le droit d'être suspicieux par rapport aux entreprises. Mais en même temps, l'entreprise, parce que moi, si je regarde l'effet qu'a le fait d'avoir des clients pour Top Cursus, ça nous oblige à demeurer pertinents.
Oui,
je veux dire, si on pèle des nuages, je ne sais pas si vous avez cette expression-là en France, pelleter des nuages, on n'aboutit pas à grands résultats. Alors que c'est intéressant, oui, parfois de rêver, mais c'est intéressant pour savoir si notre rêve a une quelconque valeur de le mettre en application.
Et c'est pour ça qu'avec Top Cursus, c'est un espace où moi je trouve qu'on peut rêver. Il y a une partie très opérationnelle et qui a été expliquée quand tu donnais le fait de dire qu'au départ, c'était des annuaires. On retrouve beaucoup ça. Donc ça, c'est très important pour des gens qui veulent retrouver ces matériaux. Et là où c'est, moi, je trouve ça très intéressant et très pertinent, c'est qu'il y a toujours une volonté de prospective.
De se dire
sur la post-humanité, donc j'ai vu des choses, Denis Christol avait écrit des choses, j'en ai vu d'autres sur différents sujets. Et ça, c'est un lieu rare où on peut rêver, Faire de la science-fiction au sens premier du terme, c'est-à-dire on fait de la fiction de la science pour justement se dire, nous, comment est-ce qu'on se positionne pour redonner de la perspective à la formation.
Ben, je peux te donner un exemple récent sur notre dossier sur les robots.
Oui,
Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une percée qui venait d'être faite relativement récente qui rendait la pertinence des robots en éducation beaucoup plus élevée. En ce sens que tant qu'un robot ne fait que évaluer votre comportement, si vous avez réussi, je vous donne une question plus difficile, si vous n'avez pas réussi, je vous donne une question plus facile ou je vous réfère à telle ressource, ça c'est très objectif. Mais à partir du moment où le robot est capable de percevoir que vous avez énormément d'intérêt ou au contraire, vous êtes complètement abattu, que vous êtes fébrile ou que à partir du moment où le robot devient sensible à vos... Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit-là. Parce que maintenant que le robot devient sensible à vos émotions, il commence à vous suggérer des choses différentes. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux, trois sources différentes de recherche, dont la plus impressionnante, c'était avec Watson, c'est Jill Watson que ça s'appelait le système, où là, eux autres, ils ont fait un tuteur, ça fonctionne vraiment, là. Ils ont fait un tuteur pour des étudiants dans un cours d'informatique. Et les étudiants pouvaient avoir soit le tuteur robotique ou le tuteur de vrai tuteur. Et ils demandaient d'évaluer la pertinence de chacun, mais les étudiants ne savaient pas à qui ils s'adressaient vraiment. Et pour que le tuteur robotique devienne pertinent, l'intelligence artificielle détectait le niveau émotionnel. Regardez si la question était plus sociale ou plus émotionnelle ou plus technique. Et quand elle était plus technique, il l'envoyait à une intelligence artificielle technique. Puis quand elle était plus sociale, il l'envoyait à une autre intelligence artificielle. Il recevait les réponses, combinait les réponses et après ça, envoyait la réponse. Le taux de satisfaction de ce tuteur a été de 85 %, alors que les autres avaient 50 ou 60 %. Alors, tu dis, oups, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et en plus de ça, il y a d'autres robots, que les autres sont c'est plus du type humanoïde, là, mais qui commencent à percevoir les réactions des élèves. Et à partir de là, est beaucoup plus empathique, si vous voulez. Et à partir de là, l'efficacité est décuplée. Puis là, on dit, hop, là, on sort de la pure programmation, apprentissage programmé, là, puis on rentre dans quelque chose d'autre. Et là, sort la grande crainte des robots, c'est que les robots se servent de nous pour un but qu'on ignore. Dans le sens, ils ont une intelligence artificielle, ils sont en réseau, les autres, ils voient des choses, ils peuvent nous amener à un endroit où on n'a aucune idée. Et ça, c'est la perte de notre âme, si vous voulez. C'est comme on ne sait pas, on devient juste une cellule dans un organisme. Et ça, c'est la perte. Et de l'autre côté, dans une école, plutôt que d'avoir des étudiants en détresse ou des étudiants qui sont complètement convaincus qu'ils ne sont pas bons, que leur carrière est finie, etc., si tu as un robot qui a suffisamment d'empathie, qui peut comprendre, il peut les aider et les faire progresser, qui est-ce qui serait contre ça par rapport à un étudiant qui est abandonné tout seul dans le fond de la classe? Alors je me dis, effectivement, les robots, c'est intéressant. Alors cette perspective-là, en fouillant ce qui se passait et en essayant de l'appliquer en éducation, c'est ça qu'on sort. Alors, c'est ce qu'on adore faire. La
Et
semaine.
ça,
Oui.
pardon, et ça pourrait pas être aussi le futur assistant du formateur ou du responsable de formation
C'est un
pour
plaisir.
justement créer des produits plus efficients. On parlait la semaine dernière d'expérience utilisateur. Si la technologie existe, peut-être maintenant penser au modèle qui peut.
Avec la grande question pour compléter, est-ce que finalement, tu parlais d'assistant, il y a une timidité dans la question, est-ce que finalement, ça ne serait pas le meilleur formateur?
Oui, aussi.
Ça,
On pourrait l'appeler.
ça a des limites, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que après un certain temps, surtout avec les technologies, souvent, la meilleure technologie, c'est papier-crayon. La meilleure technologie, c'est d'enlever tout ça, là, puis avoir un échange direct. Il y a des choses qui s'enseignent mieux avec des technologies, il y a d'autres choses qui s'enseignent mieux sans. Et c'est le dosage de tout ça qui est compliqué à avoir. On est encore en phase d'ébahissement devant tout ça, d'exploration, mais à un moment donné, ça n'a pas été long, par exemple, on recule il y a une vingtaine d'années, les gens disaient le vidéo, À quoi ça sert? Ben, le vidéo pour expliquer des concepts généraux, c'est très bien, mais pour apprendre comment faire une équation, une dérivée, c'est pas idéal. Je veux dire, il y a d'autres façons. La lecture est meilleure, par exemple. Alors, chaque technologie a son secteur d'intervention. De plus, le coût de tout ça, l'investissement qu'il faut faire, par exemple, pour un truc de réalité virtuelle, c'est colossal. À quoi ça peut... Et toute l'infrastructure que ça prend, la précision que ça a pour une durée de vie relativement courte, qu'est-ce qu'on peut enseigner avec ça finalement? Il y a quelques spécialités qui vont être trouvées preneurs, puis ça doit être des spécialités qui coûtent très cher. Même chose pour les simulateurs. Des simulateurs à 2-3 millions de dollars, c'est bon pour une usine pétrochimique, un avion ou une centrale nucléaire. Mais pour quelqu'un qui a une équipe de vendeurs à former, il va pas prendre un simulateur à 2-3 millions de dollars, il va prendre un simulateur à 2-3 000 dollars. Puis
Mais
pour quelqu'un, oui.
est-ce que par exemple sur ces pédagogies immersives, en France on a France Pédagogie Immersive qui est très intéressant comme expérimentation. Est-ce que finalement c'est pas le début de la trajectoire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça coûte cher en termes de programmation. Demain il y aura une identification corporelle d'environnement, il y aura une composition qui sera de très bonne qualité et qui permettra à chacun de créer lui-même, comme aujourd'hui avec YouTube, son propre contenu à un coût tout à fait accessible.
Ben, permettez-moi d'en douter un peu. Ce qu'on voit, par exemple en cinéma, c'est officiel, tout le monde peut tourner un film avec son téléphone cellulaire, mais ceux qui vont gagner leur vie avec ça, ils font des scénarios, ils ont des équipes, ils professionnalisent tout, puis finalement ça devient une grosse affaire pour qui va être limité, encore là, à un certain nombre de cours ou de sujets. Ça ne sera pas tous les sujets qu'on va pouvoir enseigner avec ça. Et de toute façon, une tête parlante, c'est mortel. Je veux dire, quelque part, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut jouer. Je crois beaucoup plus à des. Encore cette semaine, j'ai vu les nouveaux blocs Lego pour les aveugles. C'est génial. Et le code braille, c'est 6 points. Et puis, il y a 8 points sur les briques Lego. Alors, ils sont mis à enlever des points pour faire les lettres avec. Puis, alors, les gens de braille, les gens peuvent apprendre le braille avec les blocs Lego. C'est pas une technologie très sophistiquée, mais ça a un résultat extraordinaire. Alors, moi, je vois bien des technologies comme ça. Le papier, entre autres, on découvre que les livres papier sont un vecteur pour diffuser les idées beaucoup plus puissant pour les idées subversives que Internet, parce qu'on peut pas, c'est difficile de les arrêter. Tandis qu'avec Internet, on est capable de bloquer et de retrouver la source assez rapidement, surtout.
Et donc finalement, tu n'es pas adepte, parce que je sais que tu avais fait une série d'articles qui était assez intéressant, une série d'articles sur la post-humanité avec la singularité,
Oui.
c'est-à-dire que tu penses qu'effectivement à un moment, l'humanité va apprendre différemment dans son rapport avec la machine et qui va complètement transformer sa nature, ou pas?
Ouais, je serais incapable de répondre à une chose semblable. C'est trop. Quand je regarde le potentiel de l'intelligence artificielle, ça peut devenir un outil qui nous amène ailleurs, définitivement. Donner un exemple plus simple, là. Il y a actuellement ben, le plus simple, en tout cas, pour moi, le plus puissant. Il y a actuellement il y a des centaines de satellites. Il y a au moins deux constellations de satellites qui photographient la Terre entière à tous les jours. Okay? La Terre entière à haute résolution à tous les jours. Il n'y a aucune personne humaine qui est capable de regarder toutes ces images-là et d'en retenir une quelconque donnée à chaque jour. Cependant, vous pouvez, grâce à l'intelligence artificielle, demander combien il y a de vaches en France qu'on voit dans les champs le 3 juillet, puis comparer ça à l'année précédente. Et donc, vous pouvez savoir si le nombre de vaches en France augmente ou pas. Il n'y a personne qui va s'astreindre à compter le nombre de vaches, mais il y a une intelligence artificielle qui peut le faire. Même chose pour des millions de diagnostics à partir de radiographies ou des choses comme ça. Alors tu dis, vraiment, les intelligences artificielles peuvent nous amener à voir des relations que l'on n'est pas capable de voir à notre échelle humaine, mais comme c'est nous qui contrôlons la machine, ça nous amène ailleurs définitivement. Mais de l'autre côté, les possibilités de contrôle de ces choses-là, d'influence, ben comme on voit actuellement avec le jeu vidéo, voyons, il y a même des poursuites ici contre ce jeu vidéo qui rend les gens totalement addictifs. J'ai juste Counter-Strike dans cette tête, mais c'est pas Counter-Strike, c'est le plus récent, là. Mais il y a même le prince Harry qui a dit que c'était un jeu addictif.
D'accord.
Et que ce jeu a été fait avec toutes les données de psychologie connues à propos des jeux vidéo là, pour nous rendre accro le plus rapidement possible. Là, tu te dis, hey, mais c'est complètement tordu. C'est des gens qui ne visent pas notre épanouissement, qui visent à nous manipuler, littéralement. Et ce type de manipulation-là devient, d'après moi, beaucoup plus facile à partir de millions de données. On peut influencer des grands groupes, on peut influencer des élections, on peut influencer toutes sortes de choses. Alors, je me dis, wow, on a quelque chose là qu'il va apprendre, falloir apprendre à contrôler.
Et pourquoi pas, en étant positif sur cette influence, influencer pour développer une appétence à la formation? Par exemple, certaines entreprises disent en France, alors est-ce que c'est marketing, je ne sais pas bien, mais elles disent, nous, on développe de l'addiction à la connaissance et les gens vont jouer, apprendre des choses et gagner de plus en plus sur des jeux du style Super Mario, des choses comme ça.
Ben, je vais te répondre par un vieux paradoxe. Est-ce qu'on peut conditionner quelqu'un à être autonome? Alors, c'est pas l'autonomie, mais finalement, il a été conditionné à être autonome. Mais la journée où il ne faut pas qu'il soit autonome, il va être autonome. Dire, c'est pas la liberté. Alors, moi, je suis toujours vers. Alors, si on aurait une intelligence dont l'algorithme vise à nous rendre le plus libre possible, d'accord. Mais c'est sûr, faut mettre la doigt sur l'algorithme et savoir comment le programmer. C'est ça. Mais. On vit dans une époque formidable.
Oui, ça pose la question, peut-être une vidéo sur les changements juridiques qui pourraient se poser dans l'intégration des nouvelles technologies comme celle-là dans le domaine de la formation, par exemple, vis-à-vis des utilisateurs.
C'est déjà commencé. Le gros problème actuellement, et c'est même devenu un frein pour l'intégration des technologies en éducation, c'est la confidentialité des données. Parce que la plupart des institutions n'ont pas les ressources suffisantes et l'argent pour assurer la confidentialité des données, l'énorme quantité de données qu'ils accumulent. Alors là, ils commencent à simplement ne plus l'accumuler parce qu'ils veulent pas se ramasser avec le problème. Alors, et moi, c'est un peu la position que j'ai prise à Top Cursus, comme on dit, on accumule zéro données nominales. Je veux dire, ce que vous avez dans votre profil, je ne le sais pas, à moins d'aller voir sur le site, puis si vous l'effacez, tout est effacé, on ne garde aucune donnée, parce que je ne veux pas m'embarquer là-dedans, c'est trop coûteux, c'est juste trop coûteux et trop compliqué. Alors,
Il y a une réglementation particulière au Canada?
Oui, et encore là, je l'ai impartie. Je fais affaire avec des fournisseurs qui la respectent, ce qui fait que moi, j'ai pas besoin de m'occuper de ça parce que c'est pas une vie, là. C'est pas ce qu'on veut faire, s'occuper des données, franchement. S'occuper de la sécurité des données. Si je vous disais qu'on a eu cinq, on va bientôt avoir notre sixième plateforme, là, puis il y a au moins trois de ces plateformes-là qu'on a transformées uniquement, et la seule raison était les attaques informatiques de virus et de trucs. C'est très dérangeant, c'est très coûteux, c'est très dérangeant. Mais bon, maintenant, ça fait partie de nos critères de base quand on prend une nouvelle plateforme. Le niveau de sécurité, il faut qu'il soit suffisant. Parce qu'avec 40 000 abonnés et visiteurs et étudiants qui veulent essayer la nouvelle technique qu'ils viennent d'apprendre, là, puis que maintenant, on avait des espèces d'alertes quand il y avait des attaques, puis on en avait plusieurs par jour. Ce qui fait que, bon, maintenant, ça n'occupe plus, c'est blindé, ça va. Pour l'instant, ça va bien.
D'accord. Vas-y, Stéphane.
Et sinon, puisqu'on parlait justement de l'évolution des choses et puis la montée en puissance des attaques qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus pénibles, comment tu vois l'évolution de Top Cursus dans 5-10 ans?
Fermé? Exactement la même question que j'allais poser.
Ouais, c'est rigolo. Dans 5-10 ans, il y a des choses Je vais donner des exemples. Maintenant, des gens me disaient « Pourquoi vous ne faites pas de vidéo? » Je ne fais pas de vidéo parce que j'ai aucune idée comment réussir à faire de l'argent avec ça, à financer ça. C'est même pas faire de l'argent, parce qu'on ne fait pas vraiment d'argent. Tout ce que je fais, c'est on la réinvestit tout le temps. Mais comment réussir à financer une vidéo si on veut faire des vidéos de qualité? Là, je regarde une ressource comme Veritasium, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
C'est un type qui a fait une thèse sur l'efficacité des vidéos scientifiques. Et puis depuis ce temps-là, il fait des vidéos scientifiques et il n'y a pas une seule de ses vidéos qui a moins de 1 million de vues. Il y en a plusieurs qui ont 5-6 millions de vues. Il gagne sa vie avec ça. Mais quand tu vois le niveau qui est rendu et l'expertise qu'il a développée et l'équipe qu'il a, ben je me dis, c'est pas ma job, ça.
Mais il gagne sa vie sur YouTube, par exemple.
Sur YouTube, oh oui, c'est ça.
Oui, donc c'est. Mais il y a d'autres modèles qui sont plus avec des communautés apprenantes, il y a des. Voilà, des
Ben,
choses comme ça.
il a tout ça. Il a, oui, il y a YouTube, mais il y a aussi des commanditaires. Il y a aussi, en tout cas, il y a toute une écologie autour de ça
D'accord.
parce que c'est devenu très. C'est qualité ce qu'il fait.
Bien sûr.
Ceci dit, on ne s'est jamais lancé dans la vidéo. Podcast, la même chose. Les balados, même chose. Maintenant, on s'est dit, est-ce qu'on se lance dans la production imprimée? Parce qu'on aurait du matériel pour faire de
Bien
la
sûr.
production imprimée. Mais ça serait un peu remettre en question notre prémisse de base qui était zéro papier. Je veux dire, Top Cursus n'a jamais rien imprimé et on fait tout pour qu'on n'ait pas besoin d'imprimer. Alors on s'est dit, non, là, c'est vrai que ça, on perd un peu de marché ou d'influence en faisant ça, mais c'est un choix éditorial ou plus qu'éditorial, un choix technique là, qui nous a amené où ce qu'on est. Et j'y tiens, et puis bon, pour l'instant, en tout cas, on est encore là, on fait zéro papier. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Il apparaît toutes sortes de technologies. Les jeunes lisent de moins en moins, ce qui fait qu'avant, on avait des articles de 2-3 pages. Maintenant, nos articles font une page. Bon, peut-être que on se remettre à faire des articles de 2-3 pages. Peut-être qu'on va se mettre à faire des liens différents. Écoute, je l'ignore. On va aller où les gens vont, mais avec efficacité. Je vais donner un exemple de choix qu'on a fait. Comme par exemple, nous, tous les liens. Toutes nos références, on les met au bas des articles. On a toujours fait ça. Moi, je veux qu'on parle des ressources. Je veux qu'à la fin d'un article, une personne dise, ouais, mais si moi je veux aller plus loin, je fais quoi? Moi, si je veux contacter un tel, je fais quoi? Tu sais, où je le trouve? Les liens sont en bas. On peut aller plus loin tout le temps. Et je pense que ce choix-là fait en sorte qu'on demeure pertinent. On demeure connecté. Il y a quelque chose que. Je regarde des grands médias, ils ne mettent pas de liens qui font sortir les gens de leur site parce qu'ils veulent les garder captifs. C'est correct. Mais nous, notre mission, c'est d'amener les gens ailleurs. Ce qui fait qu'on a un taux de, comment ils appellent ça, de rebond là, qui est énorme. Mais c'est notre job. Vous savez, moi, les gens me payent pour que je les amène sur leur site. Alors, ben, ils voient un article, puis après ça, ils partent. C'est correct. C'est comme ça qu'on fait notre argent. Alors, de dire quel modèle on va avoir, vers où on s'en va, je regarde tout ce qui se passe. En ce cas, la semaine passée, quand j'ai dit à mes rédacteurs, quand j'ai fait l'analogie sur les églises et les écoles, j'ai dit, écoute, ça va bouger pas mal encore, là. Je pense qu'on a de la pertinence pour quelques années encore. Alors, j'en ai au moins pour une dizaine d'années encore à dire, à regarder les convulsions du monde éducatif. Je ne sais pas si ça va accoucher, je ne sais pas si ça va mourir, je ne sais pas si ça va se métamorphoser, mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est certain.
Alors, comment ça marche pour avoir des idées à Todd Cursus? C'est un collectif, c'est toi tout seul?
Non, en fait, on travaille beaucoup avec Trello. Trello, c'est notre base où j'ai une vingtaine de rédacteurs, peut-être 22 maintenant, je ne sais pas. Et là, il y a différentes sections dans Trello, dont il y a une section suggestion de thèmes. Okay? Moi, 2 fois par année, je m'installe et je prends tout ça. Et après ça, je regarde aussi les tendances dans Internet. T'sais, je regarde les mots-clés les plus utilisés dans l'année. Je regarde les nouvelles nomenclatures dans différents métiers. Je regarde toutes sortes de choses. Okay? Puis là, à partir de là, il sort c'est une espèce de brainstorming collectif. Mais à la fin, c'est moi qui choisis, parce que bon, il faut bien que quelqu'un choisisse, là, si on veut que ça finisse. Mais je prends les idées d'un peu tout le monde. Comme il y a quelqu'un qui a dit il y a 2 semaines, politique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de politique. C'est vrai, ce qui fait que dans 2-3 semaines, le thème, c'est sur la politique. Mais la politique, comme on la vit aujourd'hui, rien à voir avec les grandes. On parlera pas des principes politiques, des grandes théories. Non, non, on va parler de comment se fait la politique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on montre dans les écoles à propos de la politique? Quelles ressources on trouve à propos de la politique? C'est ça qu'on va parler, ce qui fait que ça fait un truc extrêmement vivant. Et puis bon, la seule politique que j'ai, moi, c'est de rendre les gens plus libres. Alors, on essaye de toutes les façons possibles. Puis en même temps, je suis obligé de mettre des articles payants. C'est monstrueux.
Il faut vivre. En plus, comme tu rends un service, c'est socialement important. Est-ce que tu as des missions? On parle beaucoup d'humanitaire, de développement durable. C'est des choses qui viennent petit à petit dans le monde de l'éducation pour toi?
Ben écoute, donner un exemple. Il y a 3 ans, il y a une dame, une sœur du Nord Kivu. Je ne sais pas si vous savez où ce que c'est le Nord Kivu. C'est
pas moi.
C'est l'île de Bukavu, je me rappelle, j'ai oublié le nom, qui dit j'ai reçu une trentaine d'ordinateurs portables. Très bien, je ne savais même pas où c'était au départ. Et elle dit sauf qu'on n'a pas on a de l'électricité 1 heure par jour. Pardon, il y a de l'écho là.
Oui, il y a un petit écho.
Ouais. Et ce n'est pas pendant les durées des cours. De toute façon, avec 1 heure, je ne pourrais même pas regarder de recharger les. Alors, il dit on aurait besoin d'une génératrice. Alors, bon, finalement, je me suis tourné alentour, on a trouvé des ressources, et puis on a trouvé un partenaire local, puis finalement, il y a une génératrice qui s'est installée sur l'île où ils sont, dans une école secondaire en terre. Ils ont tout aménagé une classe, et maintenant, il y a 30 ordinateurs, ou 20 ou 30 ordinateurs portables qui fonctionnent, et puis l'école rayonne dans toute l'île. T'sais, il y a une école pour une île de 200 000 personnes, c'est quand même incroyable, là, mais il y a une école secondaire. Et bon, alors je dis ça, c'est une mission humanitaire, mais en même temps, j'ai regardé l'effet que ça pouvait avoir et comment qu'elle nous a trouvés, je l'ignore. Il y a des trucs comme ça. Après ça, l'autre action qu'on fait, on reçoit, je dirais, 2-3 fois par semaine, des demandes d'aide, de tout niveau, de gens qui visiblement découvrent Internet. Qui nous demandent de les aider à prendre un cours ou quoi que ce soit. Alors, on s'installe, on trouve un cours qui pourrait leur faire, et puis on leur envoie l'adresse et tout. Bon, ça prend, ça, c'est juste du temps, c'est pas de coût. Et quelque part, je refuse de dire, ça me rapporte rien, on me flanque ça aux poubelles. T'sais. Je pourrais faire ça, mais je m'imagine en Afrique ou Haïti ou quelque part. Là, puis là, j'envoie une demande d'aide qui est tout à fait légitime, qui peut transformer sa vie. Et puis, puis moi, je ne répondrai pas. Et je trouve ça dur. Alors que, sauf que des fois, il y a des gens qui disent... Il y a des gens qui ont répond pas, effectivement. Il y a des gens qui demandent... Je veux une bourse pour étudier, pour immigrer en France. Oui, c'est bien. J'ai le droit de vouloir. Je le réfère au répertoire des bourses, là, mais... C'est pas tout à fait comme ça que ça marche.
C'est ça. Et c'est ça tout le sens aussi de la formation, c'est de transmettre, c'est un lien entre les hommes. Et donc forcément, c'est bien de garder cette philosophie, de se dire, on s'apporte des choses les uns avec les autres, même s'il y a un volet économique, parce que forcément, il y a un volet économique, mais il y a aussi une philosophie et une éthique qui fait lien, quoi.
Oui, puis ben, la connaissance, c'est des liens de toute façon. Il n'y a rien d'autre que des liens. Alors, on fait des liens. Et c'est ça. Et vous savez, Thoth, c'est un dieu, n'est-ce pas? Un dieu de la connaissance. J'ai beaucoup de plaisir à essayer d'imaginer en comment, par quel prodige ou par quelle forme de pensée on a pu, il y a 3000 ans ou 4000 ans même, avoir l'idée d'un dieu de la connaissance. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire, un dieu de la connaissance? Et Thoth, c'était la connaissance partagée. Mais Thoth, il dérangeait un petit peu les cultes officiels de Amon et Aton. Et on a trouvé une façon de le faire, de le marginaliser, de le faire taire. Et ça s'est appelé le secret. Alors, ils ont pondu un truc qui s'appelle le livre secret de Thoth. Et Thoth, son descendant, c'est Hermès. Hermétique, etc. Et c'est assez étrange que pour réussir à étouffer la connaissance, on ait à utiliser le secret. C'est la meilleure façon d'étouffer la connaissance. Et quand je regarde l'évolution d'Internet, moi j'ai réhabilité Thoth parce que Internet permettait la diffusion complète de la connaissance. Et là, de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter l'accès à cette connaissance. Alors on va tuer Thoth de nouveau.
Absolument.
De le restreindre. Et en tout cas, pour l'instant, il est bien vivant.
Puisqu'on en avait parlé ensemble avant par rapport à Socrate et Thote, puisqu'il avait, il avait écrit aussi le fait de dire que il était contre l'écriture, et donc Thote, qui est aussi le dieu de l'écriture, et l'argument de Socrate, c'est de dire que quand on écrivait, c'était quelque chose qui n'était pas vivant, et donc avoir la technique, c'est intéressant, avoir le numérique, c'est intéressant, mais encore faut-il garder la vie que lui avait dans sa cosmologie, et c'est ça qu'on transmettait. Et ce qui reprochait à l'écriture, c'est que parfois elle se perdait, qu'elle soit numérique, qu'elle soit manuelle, mais simplement, il faut garder la vie pour transmettre. Et c'est ça qui est, c'est pour ça que l'éthique est très important. C'est quand on a un message, une poésie, une démarche qui n'est pas calibrable par l'écriture, alors c'est ça qui la transcende. Et c'était le message que
mais
Socrate.
Mais là, on bascule dans une problématique réelle en entreprise aujourd'hui, dans la gestion des connaissances, qui est ce qu'on capitalise. Est-ce qu'on crée de nouvelles connaissances? Est-ce qu'on les partage? Quels sont les objectifs qui sont les plus pertinents dans une stratégie de gestion de connaissances? Donc, c'est toujours
Ouais,
d'actualité.
ben, dans le logo de Thote, il y a deux cercles. Le premier, c'est le soleil, et le deuxième, on va dire, c'est la lune. Mais le premier, c'est la connaissance, je dirais, véritable, ou la connaissance universelle. Et de l'autre, c'est la connaissance, je dirais, technique ou triviale. C'est celle qui dit comment qu'on prépare une omelette, ou comment qu'on répare une voiture, ou comment qu'on gère une entreprise. C'est des connaissances sur les connaissances sur les connaissances. Et à un moment donné, ça devient c'est de l'opérationnalisation. Ces connaissances-là, je pense, elles sont tout à fait justifiables de les écrire parce que notre monde est rendu tellement complexe. Je ne sais pas comment on peut faire un processeur, mais construire un processeur, mais c'est de la connaissance et j'espère qu'elle est écrite parce que je suis certain que ce n'est pas simple. Quand on est rendu à travailler au niveau des atomes, je veux dire, ça s'observe pas comme ça. C'est des siècles de développement, de connaissances qui se perfectionnent, qui sont rendues d'une complexité, d'une richesse tellement élevée que sans l'écriture, ben, il y a personne capable de retenir ça, c'est évident. Et je pense que d'ailleurs, l'intelligence artificielle nous amène à un autre niveau, mais c'est le même effet. Sans l'écriture, on ne serait pas capable d'avoir les productions industrielles qu'on a. On ne serait pas capable d'avoir le confort qu'on a parce qu'on n'aurait pas les, on serait pas capable de retenir les connaissances. Tout simplement, grâce à l'écriture, on peut faire ça. Alors, avec l'intelligence artificielle, on va passer à un autre niveau, mais sans l'intelligence artificielle, on ne pourra pas l'atteindre. C'est un peu ça. Pour venir à Socrate, pour moi, Socrate, ce qu'il dit, c'est de savoir penser, de savoir poser les questions. Et les gens s'attendent à avoir toujours les réponses quelque part, alors qu'il faut savoir trouver soi-même les réponses, certaines réponses, en tout cas celles qui nous concernent. Et si on ne fait jamais cet exercice-là, ben on devient des girouettes manipulables et sans personnalité. Alors, c'est un peu ça. Je pense que ça. Et il avait. Je le comprends tout à fait de dire. Il traitait les. Je dirais quasiment les inférieurs de lecteurs, parce que ce n'étaient pas leurs propres idées. Oui, mais quand. C'est ça. Lire des idées des autres, c'est une chose. Ça nous enrichit. Pouvoir les discuter, c'est une chose. Mais lire comment. Comment résoudre une équation, ben là, je veux dire, c'est une autre paire de manches. Là. C'est vrai qu'on pourrait la trouver soi-même. Les grands mathématiciens, souvent, sont passés par là. Mais je ne peux pas savoir. Je ne connais pas de mathématicien qui saurait toutes les mathématiques. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. il y a des noms. Des fois, il nomme les noms des équations à un Hamiltonien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Hamiltonien en mathématiques, mais moi non plus.
Mais un Lagrangien, oui, mais...
Bon. Un Lagrangien, un Hamiltonien, c'est bon. C'est des gens qui ont des équations à leur nom. Je dis, waouh, c'est avancé. Mais eux autres, ils se comprennent. Mais moi, il faut que je lise pour être capable de savoir de quoi ils parlent. Il faut que je l'apprenne.
C'est tout l'intérêt, justement, de ce que tu as fait, Denis. C'est d'être capable à la fois d'avoir l'accès à la connaissance et de l'animer, c'est-à-dire de lui donner de la vie. Et ça, c'est une belle expérience grâce à Thote Cursus. Merci beaucoup, Denis. Merci, Manal, pour toutes tes questions. À très bientôt. Au revoir à tous.
Bientôt. Au revoir. Ben oui, c'est un plaisir. Alors, à la prochaine, éventuelle.